Bonjour Amy, comment vas-tu?
Salut, ça va très bien. Et toi?
Eh ben écoute, nickel, reprise du boulot aujourd'hui, il fait super beau, donc le déconfinement pour l'instant se passe bien, pourvu que ça dure.
Yes, parfait.
Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les auditeurs, s'il te plaît?
Oui, alors moi, c'est Rémi Gallego, aussi connu sous le nom The Algorithm ou The Algorithm pour ceux qui parlent bien anglais. J'ai d'autres projets également. J'ai un projet qui s'appelle Boucle Infinie et je fais aussi de la musique pour jeux vidéo. Voilà, c'est à peu près tout ce que je touche au travers de la musique.
Avec ton titre, donc Boucle Infinie, c'est quoi exactement comme style de musique que tu fais?
Boucle Infinie, ça va être plus dans le mélange synthwave et post-rock et musique électronique. Donc, c'est un concept qui mélange plusieurs styles différents mais qui reste assez électronique et ambient. Avec le projet The Algorithm, je vais toucher plus des styles qui sont reliés au métal. Donc, ça va être plus dans le mélange métal progressif et musique électronique, spécifiquement synthwave, encore une fois. Donc, ça va être plus cet aspect un petit peu rock-metal qui va être plus présent que mes autres projets.
Et donc le nom de The Algorithm était venu comment?
J'ai commencé ce projet, j'étais à la fac, j'étudiais l'informatique en fait et je sortais d'un cours d'algorithmie. Je me suis mis à écrire mon premier morceau, je sais pas, ça m'a inspiré. J'avais bien l'idée d'essayer de faire de la musique qui ressemble un petit peu à un ordinateur qui parle. Donc en fait c'était le premier nom qui m'est venu parce que je sortais de cours et du coup c'est resté. Et je trouve que ça représente assez bien ce côté un peu geek, un peu... de la musique.
Tu sors de la musique sous deux noms distincts, plus un troisième, comme tu disais, avec bouquin, comment tu dis?
Boucle infinie.
Boucle infinie, ok, d'accord, j'avais pas très bien compris au début. Pourquoi tu as fait la distinction entre The Algorithm et Rémi Gallego? Parce que ça aussi, tu sors des titres sous ces deux noms-là, donc pourquoi cette distinction?
Avec Algorithm, je veux vraiment garder ce concept qui relie le métal et la musique électronique. Donc pour moi, je vois ça vraiment comme un espèce de framework, en fait, comme un ensemble de règles et de codes que je vais un petit peu élaborer, essayer d'aller au fin fond du problème pour repousser les limites, en fait, du genre. Et quand j'ai envie de faire d'autres styles de musique, et être un peu plus libre en fait dans mes créations. J'utilise d'autres noms, par exemple mon nom à moi, Rémi Gallego, ou bien ce projet-là, Boucle Infinie, aussi qui me permet de toucher des styles un petit peu différents.
Et puis après aussi, quand tu te vends sous Rémi Gallego ou sous Boucle Infinie, est-ce que les gens savent que tu es aussi donc The Algorithm ou pas?
C'est une bonne question. En fait, je pense qu'il y a des gens qui suivent en fait mes albums dans leur ensemble, donc ils vont être intéressés par tous les projets un petit peu en même temps. Et je pense qu'il y a d'autres personnes chez qui, pour eux, le métal ça leur parle pas forcément, donc ils vont être plus attirés par le côté électronique de Boucle Infinie, par exemple, ou bien les musiques de jeux vidéo. Et je pense que le public se rejoint, mais pas forcément tout le temps et pas forcément partout. Mais oui, il y a des gens qui s'intéressent à tout ce que je fais. C'est super, quoi, d'avoir des gens comme ça.
Et après, aussi, peut-être, ça te permet d'avoir un projet en partant de neuf, c'est-à-dire de pas avoir forcément le jugement de ce que tu as fait avant, ou même juste le biais un peu cognitif de, tiens, bah avant, il faisait ça, maintenant, il faisait ça. Au moins, tu as quelque chose de vraiment un projet à part entière qui est dans ce style-là, un autre qui est dans ce style, et pas ce côté, ah bah ouais, mais là, il a vraiment changer ou il est plus comme avant.
Ouais, c'est exactement ça en fait. Ça enlève un petit peu la pression de ce que les gens pensent du projet et un petit peu des préjugés qu'on a par rapport à un groupe ou un style de musique en particulier, quoi.
Ça évite que tu te cantonnes à un style pour correspondre à ce que les gens attendent de ce groupe.
Ouais, c'est ça, exactement. Comme je disais, en fait, avec Algorithm aussi, c'est un petit peu à la fois la pression de ce que les gens attendent, mais aussi moi-même qui essaye de me donner des codes particuliers à suivre parce que je trouve ça sympa de repousser les limites d'un certain groupe de gens et de code en particulier, quoi.
Et donc, j'ai vu que tu avais commencé ta carrière musicale en 2009. Ça fait combien de temps que tu fais de la musique exactement?
Alors, j'ai commencé assez tôt. En fait, je prenais des cours de guitare parce que ma maman m'avait poussé à le faire et que moi, je voulais juste jouer aux jeux vidéo dans ma chambre. Donc, en fait, j'ai fait ça. Et puis, au final, j'ai fait un an de guitare et j'étais tellement nul, j'ai pas été pris en deuxième année. Donc, ça, c'était le début de ma carrière qui a très bien commencé. Ensuite, j'ai repris des années plus tard. Donc, j'ai rejoint un groupe de metalcore sur Perpignan et puis on a fait deux, trois concerts dans la région. C'était rien de vraiment sérieux, mais on s'amusait bien. Et en fait, c'est à partir de là que je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup et que j'adorais en particulier m'enregistrer sur mon ordinateur avec ma guitare et puis jouer un petit peu avec les logiciels audio et essayer de composer un petit peu à droite à gauche des trucs. Donc c'est à partir de là, en fait, que c'est né cette envie de créer de la musique.
C'est assez technique, le metalcore pour la guitare. Comment tu fais pour justement apprendre à jouer de la guitare comme ça?
Comment j'ai fait pour apprendre de la guitare alors que j'étais nul au début? C'est ça ta question?
Alors, il y a un petit peu ce souvenir. Enfin, voilà, comment t'as fait pour bosser à ce point-là? Parce que ça doit être du travail énormément.
Alors, moi, je suis pas un excellent guitariste. En fait, je pense que j'ai joué mes morceaux, mais clairement, je suis vraiment pas du tout un guitariste technique. Moi, ce qui me plaît plus, c'est vraiment le côté création de la musique sur ordinateur, en fait. Et c'est là où je pense que je suis meilleur. La guitare, pour moi, ouais, c'est pas forcément mon instrument de prédilection, mais je pense que maintenant, avec tout ce qui est possible d'apprendre sur Internet, c'est très facile d'apprendre de la guitare comme ça, juste en regardant des vidéos, puis en apprenant des tablatures un peu partout sur Internet.
Plus forcément besoin d'apprendre le solfège ou toutes ces parties un peu rébarbatives pour pouvoir jouer correctement.
Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est pour ça que j'ai raté ma première année, parce qu'on m'a fait apprendre le solfège et la musique classique à la guitare acoustique, et ça me plaisait pas forcément, quoi.
C'est souvent le point de rupture, le solfège, ou du moins le côté assez conventionnel de jouer de la guitare ou d'un instrument, et au bout d'un moment, ça saoule parce que c'est pas forcément ce qui te correspond.
C'est ça, exactement. Et en fait, maintenant, avec tous les outils de musique assistée par ordinateur, on n'a pas forcément besoin d'apprendre le solfège, parce qu'on a un système de notation de la musique qui est entièrement basé sur l'écriture MIDI, en fait, ça s'appelle, et on n'a pas forcément besoin de connaître le solfège ou de savoir noter la musique de la manière dont le faisaient les compositeurs il y a plusieurs siècles. Donc, le solfège, c'est intéressant, mais pour ce que je fais, en fait, j'ai jamais la sensation d'avoir besoin de connaître ça, en fait.
Ouais, parce que le logiciel, en fait, t'indique, et puis après, à l'oreille aussi, tu vas pouvoir bien le faire aussi derrière.
Exactement.
Et à part la guitare, et aussi la MAO, parce que je considère ça aussi un peu comme un instrument, est-ce que tu joues d'un autre instrument?
Alors, je joue du clavier et un petit peu de basse. Donc, en fait, le clavier, j'ai vraiment appris sur le tas, beaucoup plus tard, pendant que j'apprenais à utiliser les logiciels de MAO. Donc, j'ai pas du tout de formation en classique, piano, quoi que ce soit. J'ai vraiment appris en faisant et en essayant d'enregistrer mes morceaux sur l'ordinateur. En fait, c'est pareil, quoi. C'est en faisant qu'on apprend, et au final, avec les outils qu'on a maintenant, c'est très facile de s'amuser, puis d'apprendre un petit peu comme ça, tout en s'amusant, tout en créant des trucs en direct. C'est vraiment jouissif, en fait.
Tu m'étonnes. Au niveau de ton setup, quand tu composes, donc un clavier MIDI, peut-être aussi une guitare, et puis un logiciel de MAO derrière?
Oui, alors pendant des années, en fait, je travaillais dans un home studio, donc j'avais toujours une pièce dans mon appart qui était dédiée à ça, avec mon clavier maître, donc c'est un très grand clavier, mon ordinateur, des enceintes de monitoring, un casque, une guitare, une basse peut-être. Pendant des années, voilà, je travaillais comme ça. Là, ça fait depuis l'hiver dernier, en fait, depuis décembre, je suis parti en voyage. Donc en fait, je suis en Asie depuis décembre et je voyage de pays en pays. Bon, avec le coronavirus, ça a un petit peu changé. Mmh. Je me suis retrouvé, entre guillemets, bloqué à Taïwan. Et du coup, mon setup en ce moment, ça va être plus mon laptop. J'ai un petit clavier. Alors, je peux te le montrer à la vidéo juste pour toi.
On va pas. Du coup,
j'ai deux octaves dessus. Ah. Voilà. Donc, c'est très restreint. Mais en fait, l'idée, c'est d'avoir le minimum de matériel possible. Donc, j'ai pas de guitare aussi. Donc, ça, c'est bien et pas bien. L'idée, c'est d'avoir le moins de matériel possible et de quand même utiliser la force des logiciels, et puis le fait d'avoir tout, en fait, sur un laptop et de pouvoir écrire de la musique de cette façon.
Et là, au niveau logiciel, tu utilises quoi?
Alors, j'utilise Ableton depuis une dizaine d'années, au final. Mm-hmm. J'ai jamais changé. Donc, après, j'ai une gamme assez large de librairies et autres VST.
Après, au niveau du mastering, tu le fais aussi sur Ableton?
Ouais, je fais tout sur Ableton. Donc, production, mixage et mastering complètement sur Ableton.
Ça a l'air d'un logiciel très complet, en tout cas, qui peut faire toutes ces tâches assez bien, quoi.
Ouais, exactement. En fait, j'ai jamais vraiment ressenti, comme je disais, le besoin de me mettre à autre chose. Puis c'est un logiciel qui est vraiment adapté, je trouve, à la musique électronique. Autant ce n'est pas adapté à l'enregistrement de groupe. Par exemple, si on est un ingénieur du son, on veut enregistrer un orchestre ou un groupe de métal, c'est pas forcément adapté à ça. Les outils ne sont pas adaptés à ça. Mais pour la composition et la musique électronique, la manière dont on manie, en fait, les éléments en forme de blocs, un peu comme des Lego, c'est vraiment fait pour le processus de création, je dirais. Et puis, on n'a pas la sensation de manquer d'éléments.
Clairement pas, parce que tu peux vraiment continuer à apprendre des choses, même des années après.
Ouais, c'est ça.
Et quand tu es en live, tu utilises quel setup?
Ableton, toujours. Alors en live, c'est un peu plus compliqué au niveau matériel. Alors, je vais pas te lister tous les éléments un par un, parce qu'il y en a un peu trop et je les connais pas forcément, les numéros de série, tout ça. Alors en fait, en live, il faut savoir que je joue avec un batteur. On est deux sur scène, moi et un batteur. Moi, je joue de la guitare, du synthé, de la basse, et le batteur joue de la batterie. Pour ça, on a besoin d'avoir un laptop qui contrôle un petit peu tout le reste, c'est-à-dire ce qu'on appelle les backing tracks. Donc ça va être tous les synthés que je joue pas, toutes les guitares que je joue pas éventuellement, parce que je peux pas tout faire en même temps. Au-delà de ça, on a une configuration qui permet d'envoyer également dans nos oreilles directement une piste avec un métronome pour que on soit toujours synchronisé l'un avec l'autre. Et puis on a un parc de lumières qui sont contrôlées également par Ableton. Donc Ableton contrôle contrôle les lumières. Pour programmer ça, il faut les écrire en MIDI. Donc, on écrit ce qui s'appelle des scènes et on peut les contrôler directement avec Ableton, ce qui permet d'avoir l'ensemble de la musique et des lumières complètement synchronisées à tout moment. On arrive sur scène, on lance le set et pendant une heure et quart, j'en sais rien, Ableton s'occupe de tout, on a juste à jouer nos instruments. Voilà, c'est plutôt cool. Je mentirais si je dirais qu'on n'a jamais eu de problème technique, donc c'est pas parfait, mais en fait, au fur et à mesure du temps, on a compris certaines manières de faire qui font que maintenant ça fonctionne et ça c'est stable.
Il n'y a pas un gros travail de programmation au niveau lumière et puis justement instrument derrière?
Très clairement, oui. C'est très très long. Je ne mentirais pas. En fait, ça m'a pris très longtemps d'avoir un truc, comme je disais, qui soit stable et pour lequel on soit content. Mais moi, j'aime bien avoir le contrôle sur ma musique, mais également le show, en fait, la manière dont on va présenter ça. Donc, pouvoir moi-même programmer mes lights, c'était quelque chose qui, un, me plaisait et puis aussi était important pour pouvoir un petit peu avoir la mainmise sur la représentation en elle-même.
Sur la scénographie et puis comment vous vouliez avoir l'image du groupe représentée sur scène.
C'est ça. Après, à plus long terme, on aimerait quand même avoir quelqu'un, un ingénieur lumière qui puisse s'occuper de ça indépendamment de nous parce que, comme je disais, c'est beaucoup de travail. Je préférerais passer du temps à composer de la musique et plus vraiment être dans la musique plutôt que préparer ce genre de choses.
Ouais, parce que je présume que c'est chronophage et que le temps de composition, bah, tu le perds pour faire de la programmation et de la lumière.
C'est ça. Mais après, en termes de budget et puis des fois, on fait des tournées, on n'a pas forcément les moyens de prendre un ingénieur lumière. C'est bien d'avoir un setup comme ça parce qu'on arrive, on branche le truc en USB et puis ça marche, quoi. Donc, on a besoin vraiment de personnes pour faire en sorte que ça marche. Voilà, comme je disais, à long terme et pour rendre le show, disons, un peu plus gros et un peu plus intéressant, c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui soit dédié à ça.
Tu m'étonnes. Moi, je t'avais découvert avec une vidéo de Jean-Baptiste Chaud où il parlait de ton travail dans la composition musicale de musique de jeux vidéo. Et j'avais beaucoup aimé ton titre Payload, notamment issu de la BO de Hacknet Labyrinth. Comment es-tu venu à faire des BO de jeux vidéo?
Alors, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. En fait, quand j'ai commencé à faire de la musique, c'était un de mes rêves. C'était vraiment un objectif. Et j'y suis arrivé par l'intermédiaire du développeur lui-même qui recherchait des musiques pour son jeu. Voilà, j'ai envoyé ma candidature, comme on dit, et la démo que je lui avais faite lui avait plu. Et puis, ça m'a permis, comme ça, de faire plusieurs morceaux pour son jeu Hacknet. Bah, c'était vraiment un rêve devenu réalité pour moi et puis j'ai continué donc à faire ça. L'année dernière, j'ai fait la BO pour le jeu Hell is Other Demons et en ce moment, je suis en train de faire une BO pour un jeu qui s'appelle The Last Spell qui est un jeu de stratégie Dark Fantasy vraiment prometteur. En fait, ce qui est vraiment intéressant avec les BO pour moi, c'est que ça me permet de créer quelque chose qui m'appartient quelque part parce que j'y mets de mes intentions et de mes émotions, mais aussi qui appartient à la vision de quelqu'un d'autre et en fait, j'adore cette collaboration d'esprit entre guillemets et ça me permet de tester des trucs que je vais pas forcément tester dans mes propres projets. Par exemple avec la BO de ce jeu The Last Spell, c'est la première fois vraiment que j'utilise des librairies symphoniques, des violons, des instruments issus d'un orchestre symphonique. J'ai appris tellement et c'est vraiment très intéressant et j'ai adoré faire ça, quoi. Ça me permet d'aller trouver des trucs qui sont pas forcément dans ma zone de confort et je trouve ça super. Et en même temps, ça me permet de réaliser des musiques pour des jeux vidéo. Enfin, moi je trouve ça vraiment super cool.
Bah, surtout tu me parlais un petit peu de quand t'étais jeune, etc. Donc t'avais l'air d'être assez geek et que je pense que tu l'es toujours, ça va être vachement gratifiant en fait de faire quelque chose qui te plaît depuis le plus jeune âge.
Ouais, c'est ça, parce que je me rappelle à l'époque, je jouais Final Fantasy VII et j'étais à fond sur les musiques et tous ces jeux-là, vraiment, les musiques, pour moi, une des parties les plus importantes dans le jeu et je pense que vraiment, la musique de jeux vidéo, c'est ce qui m'a fait aimer la musique quelque part, ce qui m'a mis dans la musique en fait. Pour moi, c'est un petit peu revenir aux sources en fait, je le vois un peu comme ça.
Pour la compo, est-ce que tu as une copie du jeu que tu peux tester avant pour voir un petit peu l'univers et après adapter ta compo? Où tu fais vraiment un morceau sans en avoir vraiment connaissance, à part peut-être des captures du jeu, et tu vas adapter ta musique ou vraiment tu as un minimum conscience de ce que ça va être dans le jeu, enfin de ce qu'est le jeu?
Alors ça va dépendre de l'état d'avancement du jeu en fait. Ouais. Donc très souvent les développeurs essaient quand même de contacter un compositeur assez tôt pour qu'il y ait assez de temps pour créer les musiques, pour que tout soit en place. Donc au début il n'y a pas forcément de démo jouable, donc il y a beaucoup d'artwork, beaucoup de références pour qu'on puisse comprendre un petit peu. Mais après ça vient assez rapidement et puis j'ai toujours pu tester des versions démo avant de pouvoir finaliser un petit peu ses musiques. Donc ça, c'est vraiment cool et c'est vrai que c'est très important pour vraiment avoir un feeling de comment est-ce que le joueur va, dans quel état d'esprit va être le joueur quand il va être devant ce jeu. Est-ce qu'on a besoin de faire une musique qui soit intense? Est-ce que la musique a besoin d'un peu en arrière-plan et pas trop prendre le devant sur l'action? Tu vois, c'est des choses qui sont difficiles vraiment à comprendre si on n'a pas une version en main et si on n'essaie pas forcément le truc nous-mêmes.
Alors c'est compliqué aussi en termes de durée. Je veux dire, s'il y a une scène d'action qui va durer peut-être 3 minutes et toi tu as fait ta musique pour 5-6 minutes, ton build-up, etc., il va être un petit peu... Enfin, comment ça se passe exactement? Ils te demandent une musique de telle durée pour tel type d'ambiance, etc.
Ouais, en général, c'est ça. Ils ont vraiment des durées assez précises parce qu'ils savent, en fait, les phases de gameplay, ils savent exactement combien elles vont durer. Pas exactement, mais ils ont des estimations. Donc, il y aura une phase, par exemple, dans l'exemple du jeu que je fais en ce moment, il y a une phase de jour. On va construire nos bâtiments où on va préparer nos armes qui durent de 3 à 5 minutes, en fait, en fonction du joueur. Ensuite, il y a une phase de nuit où l'action démarre et on va tuer des zombies et tuer des gens et c'est un peu plus de l'action. Mais cette phase est un peu plus courte et elle va durer, par exemple, 2 minutes. Donc, en fait, avec ces infos-là, je sais que la musique du jour, elle va durer plus longtemps et j'essaie de faire en sorte que ça tombe bien dans les clous.
Donc, c'est aussi un travail qui est très exigeant parce que tu dois aussi garder à peu près le même esprit créatif tout en ayant donc des impératifs de durée qui sont très stricts.
Ouais, c'est ça. En fait, quelque part, c'est un petit peu libérateur d'avoir des indications parce que très souvent, dans la création, quand on a trop de liberté, on sait jamais quand s'arrêter. Donc, en fait, le fait d'avoir vraiment une indication claire, ok, ça doit faire 2 minutes, il doit y avoir une ambiance comme ça, quelque part, c'est bien d'avoir un ensemble de règles, entre guillemets, à suivre. Je trouve que ça stimule la créativité d'une manière assez intéressante.
C'est-à-dire continuer à faire ce que tu fais tout en ayant un fil directeur.
Ouais, je pense que c'est super important et c'est pour ça que même dans mes projets à moi, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure où je m'impose un petit peu dans le cadre de The Algorithm, où je m'impose cette espèce de framework de genre, de sous-genre en particulier. Ça me permet d'avoir un fil rouge, un fil conducteur et vraiment une direction à suivre plutôt que de me mettre devant mon ordi sans vraiment savoir où aller.
Ouais, non, en tout cas, ça va être vraiment sympa. Et d'ailleurs, là, justement, je suis aussi en train de jouer à Doom Eternal et je sais pas si t'as eu l'occasion d'entendre les musiques de ce jeu, mais c'est quelque chose. Hein. Vraiment, déjà que le premier en 2016 était vraiment exceptionnel, mais là, c'est aussi du bon gros métal aussi. Je pense que ça te plairait beaucoup.
Yes, alors j'ai pas eu la chance de tester le dernier, mais je suis ultra, ultra fan du premier de 2016. Puis Mick Gordon, ouais, c'est un compositeur, vraiment, il a tout compris. Ce qu'il fait, c'est vraiment trop, trop bien. C'est lui qui rend le jeu ce qu'il est. En fait, c'est un bon exemple de la musique qui rend le jeu encore mieux qu'il ne l'est déjà. Le jeu est excellent, mais la musique rend le truc vraiment parfait.
Ouais, t'es hyper pris dedans et c'est juste magistral. Et tu verras, si t'as l'occasion de tester le dernier, c'est encore plus énervé. C'est vraiment... ils ont réussi à améliorer déjà quelque chose qui était excellent et il y a vraiment très peu de choses à redire, en fait, même quasiment rien.
Waouh, super. Bah, j'ai super hâte de le tester, du coup.
Ah, bah, je te le conseille, en tout cas. Je vais aussi te demander, donc, c'est quoi les artistes que tu apprécies particulièrement, toi?
Alors là, c'est une question difficile. En fait, ça va changer beaucoup d'une période à l'autre et je dirais pas que j'ai un artiste préféré. Pour moi, c'est super difficile. Mais dans les artistes qui ont vraiment influencé ce que je fais, en fait, je pourrais les écouter dans des années sans m'enlacer. Je dirais Gojira, Aphex Twin, The Flashbulb.
Oui, tout à fait. Ouais. Discover de Color, je crois que c'est un artiste anglais, non? Ou américain?
Ouais, un artiste américain, mais c'est lui. Donc super, pareil, c'est un gars qui touche à tout. Il a fait pas mal de BO, de courts-métrages et de films. Je suis fan. Après, c'est dur à dire. Souvent, je passe du Coq à l'âne. Un jour, je vais écouter la Vaporwave. Le lendemain, ça va être du jazz.
Oui, donc en gros, en fait, c'est plus par phase de ce que tu as envie sur l'instant. Et c'est peut-être un peu cyclique. Ouais, tu te laisses un petit peu ce que tu as envie, quoi.
Ouais, exactement.
Et toi, ton processus créatif, il se déroule comment? C'est-à-dire que tu as une mélodie qui te vient en tête, tu vas la poser directement ou alors c'est plus quelque chose de progressif?
Ce qui marche pour moi, j'ai pas forcément d'idées préliminaires avant de commencer. Je vais plus essayer certaines combinaisons, par exemple essayer un riff, voir si ça me mène à quelque chose. En essayant ce genre de choses, en essayant un rythme particulier, une mélodie particulière, un peu essayer de la modifier jusqu'à ce que j'arrive à un point où j'ai l'impression d'avoir une atmosphère particulière. Ça, c'est vraiment, c'est très difficile en fait à expliquer avec des mots, mais c'est vraiment en essayant et en tatouillant un petit peu à droite à gauche, en essayant de chercher des trucs, il y aura un moment où j'aurai vraiment l'impression d'avoir créé une atmosphère. Et c'est à ce moment-là où je sais que je tiens un truc et que du coup, je suis dans un espèce de flow et j'arrive à faire évoluer mon morceau et à créer un truc et à le finir.
Donc en gros, une base qui t'inspire et après tu vas agrémenter le tout.
C'est ça. Mais avant de trouver la base qui inspire, c'est beaucoup de trial and error. En fait, je vais essayer des trucs, je vais changer, je vais essayer un autre instrument, un autre son. Voilà. C'est un peu ma manière de faire, c'est que je vais essayer jusqu'à ce que il y ait un
déclic. En tout cas, ça va être vraiment un travail assez intéressant. Comme tu disais, c'est du try and retry. C'est jusqu'à temps que tu aies quelque chose. Tu dis, là, il y a quelque chose de sympathique et on est parti.
C'est ça. Si je vois que ça prend trop longtemps, en général, je fais une pause et puis je vais faire autre chose, j'y reviens.
Oui, puis vu qu'en plus, c'est sur trois projets différents, s'il y en a un qui te saoule, tu peux aussi bosser sur un autre pour histoire de te vider aussi un petit peu la tête ou du moins t'enlever ce truc qui prend la tête. Tu vas bosser sur un autre projet et ça va te permettre aussi de prendre un petit peu un air frais quand tu vas revenir sur l'autre.
Ouais, c'est ça. Et c'est très souvent ultra important d'avoir ce regard frais, de prendre l'initiative en fait, de prendre du recul sur ses propres créations, ce qui est vraiment très difficile à faire. Je pense que c'est crucial pour avancer, pour s'améliorer en fait, comprendre comment s'améliorer.
Et d'ailleurs, ton dernier album, donc Hell is Other's Demons, est sorti en mai 2019. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Ouais, donc ça, c'est une BO pour ce jeu, Hell is Other's Demons, qui est donc sorti l'année dernière. Dans le cas de Hacknet, par exemple, c'était une BO aussi, mais j'avais seulement composé, il me semble, 3 ou 4 titres. Et donc Hell is Other's Demons, c'est la première fois où je compose une bande originale entièrement. Donc j'ai composé tous les morceaux. En fait, j'ai envie d'en dire que du bien parce que je suis super content que le développeur me fait confiance et puis m'ait permis de faire cette bande originale. Le concept un petit peu du jeu, c'est un jeu qui est très pixel art, un petit peu dark avec des ambiances un petit peu à la Castlevania parfois, mais dans un style donc résolument très rétro. Donc l'idée de la musique, c'était de mêler un petit peu des éléments modernes avec des éléments rétro et faire quelque chose qui à la fois ne sonne pas trop chiptune, mais qui est aussi des petites références aux jeux vidéo un petit peu rétro. Donc c'était carrément dans mes cordes. Pour moi, les principales inspirations de cette BO là, c'est donc Castlevania bien sûr, beaucoup de musique de Perturbator. Je sais pas si ça te parle, un artiste français.
Non, ça me dirait Perturbator.
Perturbator, c'est une grosse influence. Carpenter Brut aussi, donc des artistes vraiment synthwave. Et puis mélanger ça avec les ambiances à la Castlevania un petit peu, ça a donné cet album là, cette BO là.
Ouais, parce que là j'avais l'impression aussi qu'il y avait une dimension assez downtempo 8 bits sur ce projet, je me trompe?
Ouais, justement, c'était de donner un petit peu aussi une sorte de clin d'œil aux jeux vidéo rétro parce que en fait l'esthétique du jeu en lui-même rappelait un petit peu les jeux vidéo rétro quoi.
Est-ce que tu as des futurs projets ou albums ou collaborations prévues dans les prochaines semaines, mois?
Alors j'ai un remix qui sort vendredi, donc ça peut être cool d'en parler. Alors c'est pour un artiste français qui s'appelle Orage Red, donc j'ai fait un remix pour lui qui sort sur Spotify, YouTube, Deezer, toutes les plateformes de streaming. Et puis dans les prochains mois, je vais sortir le second album de Boucle Infinie qui sortira cette année. Alors j'ai pas de date précise encore à donner, mais il va sortir cette année. Et puis voilà, pour cette année ce sera tout. Et puis en attendant, je continue à bosser sur donc 700 tracks pour le jeu de stratégie et puis potentiellement le prochain album de Algorithme qui sortira quand je le voudrais, mais sûrement pas cette année.
Tous ces projets qui sont en parallèle, il est vraiment important de s'organiser pour éviter que tu te perdes un petit peu dans tous ces projets.
Ouais, c'est important de s'organiser, c'est sûr. Après, c'est un petit peu particulier. En tout cas, moi, je trouve, dans la création, des fois, on est inspiré par un truc plutôt qu'un autre. Donc en fait, on a beau se dire, allez, lundi, mardi, je bosse sur ça, mercredi, je bosse sur ça. Des fois, en fait, l'inspiration, elle arrive. Et puis, on se dit, ah, c'est maintenant, il faut que je capture cette idée. Donc des fois, c'est difficile de vraiment suivre un planning. Donc moi, je m'impose pas forcément de planning à ce niveau-là. Ce qui est sûr, c'est que je documente le plus possible et je prends beaucoup de notes. Je fais en sorte que tous ces projets-là, en fait, ne clashent pas les uns avec les autres et que j'arrive à aller au bout de mes deadlines. Quand je bosse avec des clients, par exemple, pour les jeux vidéo, faire en sorte que ça aille assez vite, etc. Donc oui, ça demande un minimum d'organisation, même si derrière, dans ma manière de procéder, ça peut paraître un peu chaotique parce que voilà, des fois, c'est des trucs qui arrivent assez spontanément, mais ça reste quand même quelque chose qui est contrôlé, quoi.
Très bien. Toi, au niveau de ta promotion musicale, tu fais comment exactement?
Très bonne question. C'est pas du tout mon fort, on va dire, mais je fais ce que je peux. J'utilise les réseaux sociaux le plus possible. En fait, souvent, quand je sors un album, je vais travailler avec un label qui, du coup, lui, va s'occuper un petit peu de la promo. Donc, en fait, l'idée, c'est que j'essaie d'en faire le moins possible et que je fais en sorte que ce soit le label qui fasse ma promo pour moi. Mais après, c'est sûr que j'utilise les réseaux le plus possible et dès qu'il y a un truc à dire, je le dis. Et dès qu'il y a un nouvel album, quoi que ce soit, j'essaie de le diffuser. Voilà, j'ai pas de manière vraiment plus intelligente que ça, je sais pas.
Ok. C'est comment le nom de ton label?
Alors, j'ai eu plusieurs labels, en fait. Le premier label, c'était Basic Records et en ce moment, je bosse avec Fixed Music, qui est un label américain.
Et après, en termes d'audimat, est-ce que tu sais quel pays écoute le plus ta musique ou pas?
Oui, alors très clairement, les États-Unis. En fait, il y a plus de 60% qui viennent des États-Unis. Quand je regarde les stats sur Spotify, sur YouTube, c'est plus de 50-60% aux États-Unis. Ce qui est en fait ironique parce que j'ai jamais tourné aux États-Unis. J'ai fait des tournées en Europe, j'ai fait Australie, j'ai fait Japon, j'ai fait Canada. Mais les États-Unis, j'ai jamais fait. Donc c'est assez ironique. Et apparemment, c'est là où il y a le plus grand nombre d'auditeurs. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'habitants aux États-Unis? Je sais rien. Après, ensuite, en second, c'est Angleterre. Et puis, troisième, ça doit être France.
Mais en tout cas, voilà, si t'as une petite tournée à faire, je pense que les États-Unis, ça vaut peut-être le coup d'aller faire un petit tour pour faire plaisir à ton public américain.
Yes, bah ouais, on attend ça avec impatience.
Carrément. Et tu m'as dit aussi par message que tu étais à Taïwan en ce moment. Comment ça se passe là-bas?
Bah, ça se passe super bien. Après, Taïwan a été un des pays modèles, en fait, dans la lutte sur le virus. Et du coup, là, ça fait vraiment peut-être une semaine, je crois, où il y a eu zéro cas de coronavirus. Genre, tous les jours, ils annoncent qu'il y a zéro cas. En fait, il y a très, très peu d'infectés. Donc, ça se passe super bien. Il n'y a pas eu de confinement. En fait, je suis très bien tombé d'être ici. C'était un peu par hasard. C'est un super pays, très, très joli. Les gens sont adorables, une gentillesse exemplaire. Bon, là, le truc, c'est que ce mois-ci, il fait très, très chaud et très humide et il pleut tout le temps. Donc, c'est un climat vraiment particulier. Mais c'est quand même un pays vraiment, je m'entendais pas aimer autant et c'est super. J'adore ce pays.
Eh ben, écoute, tu es bien tombé dans la crise pour tomber là-dessus.
Ouais, c'est ça. Vraiment un coup de chance, quoi. Je pensais pas avoir autant de chance que ça. Mais du coup, ouais, vu que je suis avec ma copine, du coup, on n'est pas sûr encore quand est-ce qu'on va rentrer en France. Pour être honnête, on n'a pas trop hâte.
Ouais, surtout si vous êtes bien là-bas, franchement, c'est nickel.
Après, bon, on a toute notre famille et tout en France, donc c'est un petit peu difficile de faire aussi.
Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin?
Alors, un petit mot pour la fin. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité ici. C'est super sympa, quoi. Et très bonne continuation à tous et bientôt, j'espère.
Bah, c'est moi aussi qui te remercie pour cette interview. C'était super intéressant de discuter justement de ton projet. Et puis, vu que je suis un grand fan de jeux vidéo, ça m'a direct titillé l'intérêt. Donc, merci. Donc, c'était The Algorithm ou Rémi Gallego pour Radio Pulse. Passe une excellente journée.
Yes, merci beaucoup. Salut.
Salut.